commencer par saluer le courage de l'Église protestante évangélique d'Ozon-la-Ferrière. C'est une Église qui se donne comme mission d'enseigner loyalement toute la Bible. Et cela veut dire que vous ne parlez pas seulement de l'amour de Dieu, mais aussi de sa sainteté. Pas seulement de Noël, mais aussi de la fin des temps. Pas seulement de l'amour du prochain, mais plus concrètement, de l'amour pour l'étranger. Et quand vous suivez un livre biblique, ce n'est pas seulement l'évangile de Marc ou l'évangile de Jean. Ce sont des évangiles que nous recommandons particulièrement aux débutants, mais vous ne vous contentez pas de recommander la lecture de ces livres-là, mais aussi la lecture de l'épître de Paul aux Romains. Et là encore, vous auriez pu vous limiter aux chapitres les plus connus, les plus faciles. Mais en toute loyauté, vous allez au-delà du chapitre 8, avec ses beaux passages sur la vie en communion avec le Saint-Esprit. Vous allez au-delà du chapitre 8 et vous entamez aussi toute une section que les livres de vulgarisation évitent souvent, les chapitres 9 à 11. Et j'ai entendu tout à l'heure, ça a dû être des connaisseurs, des soupirs ou des signes de surprise en apprenant qu'aujourd'hui nous allions être dans Romains 9. Bravo à l'Église d'Ozoir de vouloir enseigner toute la Bible, ce qui est facile et ce qui l'est moins. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On va lire ce chapitre dans un instant, mais c'est un livre, l'Épître aux Romains, comporte 16 chapitres et nous sommes donc à plus de la moitié quand nous arrivons au chapitre 9. Qu'est-ce qu'il y a avant, puisque nous prenons le train en marche? Et bien, dans les premiers chapitres, l'apôtre Paul montre que tous les humains ont des notions de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Les Juifs, d'une part, ont la loi de Moïse et les 10 commandements. Les autres peuples ont au moins la loi de leur conscience. Et tout le monde est capable de pointer son frère du doigt. Enfin, je n'ai pas fait exprès, Michel, excuse-moi. Tout le monde est capable de pointer son frère du doigt et de dire, c'est pas bien ce que tu fais. Et du coup, ça prouve que tout le monde sait, dans une certaine mesure, ce que Dieu attend des humains. Tout le monde sait, mais personne ne le fait. À partir de là, l'apôtre Paul développe une autre idée. Ne pas être à la hauteur de ce que Dieu attend, c'est comme une dette. Jésus-Christ a payé la dette. Ne pas être à la hauteur de ce que Dieu attend, c'est une faute qui doit être punie. Jésus-Christ a accepté de prendre la punition à notre place. Ne pas être à la hauteur de ce que Dieu attend, c'est une souillure, une saleté. Et Jésus-Christ s'est offert comme un sacrifice culturel qui rend pur ceux qui ne le sont pas au départ. Voilà les débuts de ce chapitre, avec donc le constat, juif ou non-juif, même verdict, on ne fait pas ce que Dieu attend de nous. Même moyen de salut pour tous, par la foi en Jésus-Christ. Et à partir de là, s'ouvre une vie tout à fait différente, une nouvelle vie pour ceux qui la veulent. On appelle ça la vie éternelle, dès maintenant, par la foi en Christ, en communion avec le Saint-Esprit, qui nous donne la possibilité de suivre une loi d'amour que le Saint-Esprit inscrit dans notre cœur. Voilà donc le grand tableau des chapitres 1 à 8, et je peux comprendre que certains qui présente l'Épître aux Romains, s'arrête là, parce que c'est la partie la plus belle, peut-être, certainement une partie plus abordable encore que, bon, le langage de l'apôtre Paul n'est pas toujours facile pour nous autres. Mais maintenant, nous arrivons au chapitre 9, et voilà un problème qui est posé. Le lecteur juif qui a suivi jusque-là, il est très troublé. Il se dit, mais Dieu a promis le salut à nous autres juifs, qui sommes le peuple élu, qui sommes les descendants d'Abraham qui avons la loi de Moïse. Dieu nous a choisis. Et maintenant, ce Paul dit que la vie éternelle est offerte à tous sans la loi de Moïse, sans autre condition que la foi en Christ. Mais ce n'est pas juste. Dieu nous avait fait des promesses et maintenant, il décide de faire autrement. Et de l'autre côté, et juifs et non-juifs étaient présents dans la même église, de l'autre côté, le lecteur non-juif arrive jusque-là et il est troublé aussi parce qu'il se dit, si Dieu ne respecte pas le contrat qu'il a fait avec les juifs, comment est-ce que moi je peux compter sur lui, moi qui ne connais ni Abraham ni Moïse? Si les juifs ne peuvent pas compter sur sa fidélité, alors comment est-ce que moi je peux le faire? Dieu est-il fidèle? Alors notre lecture va donner quelques éléments de réponse et nous allons d'abord découvrir les motivations de l'apôtre. En allant vers les non-juifs, est-ce que cet apôtre n'a pas renié ses origines? Est-ce qu'il ne s'est pas disqualifié? Alors on va d'abord découvrir avec 5 versets ses motivations. Je lis Romains 9, les versets 1 à 5. Ce que je vais dire est la vérité. J'en appelle au Christ, je ne mens pas. Ma conscience en accord avec l'Esprit Saint dans ce témoignage. J'éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur. Oui, je demanderai à Dieu d'être maudit et séparé du Christ pour le bien de mes frères, mais du même peuple que moi. Ce sont les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent la condition de fils adoptif de Dieu, la manifestation glorieuse de la présence divine, les alliances, le don de la loi, le culte et les promesses, et à eux, les patriarches, et c'est d'eux qu'est issu le Christ dans son humanité. Il est au-dessus de tout. Dieu bénit pour toujours. Amen. Les motivations. Qu'est-ce que je comprends ici? Que Paul n'a pas de sentiment antisémite. On entend pas. Non. Il était lui-même juif. Il en était fier. Et il comprend le rôle incontournable que le peuple d'Israël a joué dans le plan de Dieu. Il sait que Jésus, le Messie, était juif. Et en même temps, l'apôtre Paul était un apôtre pour tous les peuples. Il sait en plus que la vie avec Dieu ne relève pas d'une culture particulière, que l'on n'hérite pas de la vie éternelle de père en fils ou de mère en fille, c'est toujours une question de foi personnelle. Et là, vous l'avez entendu, tristesse, immense tristesse. Le propre peuple de Paul n'a pas beaucoup suivi. C'est comme si les promesses de Dieu à leur égard ne tiennent plus. Qu'est-ce qu'on peut dire face à ça? Bien, Paul va dire, mais Dieu accomplit son plan et il le fait comme il le veut. Et ça, c'est notre deuxième étape, c'est notre deuxième lecture, mi-verset. La parole de Dieu aurait-elle échoué? Non. En effet, ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche d'Israël qui constituent Israël. Et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants. Vous avez entendu? Tous ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants, c'est bizarre. Car Dieu dit à Abraham, c'est la postérité d'Isaac qui sera appelée ta descendance. Cela veut dire que tous les enfants de la descendance naturelle d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Seuls les enfants nés selon la promesse sont considérés comme sa descendance. Car Dieu a donné sa promesse en ces termes. Citation. Vers cette époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Et ce n'est pas tout. Rebecca a eu des jumeaux nés d'un seul et même père, de notre ancêtre Isaac. Or, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même l'enfant, la naissance de ses enfants. Et par conséquent, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, Dieu dit à Rebecca, l'aîné sera un
si s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture, j'ai aimé Jacob et pas Ésaü. Bon, ce n'est pas notre culture, hein, ces personnages, ces références dans le livre de la Genèse. Mais voici la question qui est posée. Est-ce qu'il suffit d'être un descendant d'Abraham pour être sauvé, pour être considéré comme un enfant de Dieu? Non. Regardez le livre de la Genèse. Le projet de Dieu ne passait pas par tous les enfants d'Abraham, mais par Isaac seul. Par la génération suivante, pas par tous les enfants d'Isaac, mais par Jacob seul. Il est question de la promesse de Dieu qui s'attache à Isaac et pas à Ismaël, du choix de Dieu qui s'attache à Jacob et pas à Ésaü, indépendamment de leur choix à eux. Et donc, qu'il y ait aujourd'hui différentes réactions à l'Évangile, y compris chez le peuple juif, ce n'est pas surprenant, ce n'est pas choquant, il y a toujours eu des destinées divergentes. Il y a toujours eu des destinées divergentes. Et pour vous donner un deuxième exemple, tiré aussi de l'Ancien Testament, du livre de l'Exode plutôt, deuxième livre de l'Ancien Testament, pour dire que voilà, le plan de Dieu est là, et Dieu est souverain, et nous allons avoir encore un exemple, peut-être loin de nos préoccupations, mais que je vais essayer de clarifier pour vous. Face à ça, les destinées divergentes, Paul dit ceci au verset 14. Mais alors que bien, Dieu serait-il injuste? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Dans l'Écriture, Dieu dit au Pharaon, voici pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance et pour que sur la terre entière, on proclame qui je suis. Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Je vais me dire, mais pourquoi alors Dieu fait-il encore des reproches? Qui a jamais pu résister à sa volonté. Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour critiquer Dieu? L'ouvrage, demandera-t-il à l'ouvrier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage commun? Et qu'as-tu à redire si Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance? En supportant avec une immense patience ce qui était des objets de sa colère, tout prêt pour la destruction. Oui, qu'as-tu à redire si Dieu a agi ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont des objets de sa grâce, ce qu'il a préparé d'avance pour la gloire. Alors, dans cette troisième étape, ce deuxième exemple de ces destinées divergentes, il y a un exemple tiré des pharaons qui étaient les rois d'Égypte. Et pendant des milliers d'années, l'Égypte était l'un des pays les plus puissants du monde, toute la richesse de la vallée du Nil. Et les pharaons, là, ce sont les bâtisseurs de pyramides. Vous allez voir certaines choses à petite échelle au Louvre. C'est une civilisation immense. Et les pharaons étaient les rois de cette pays qu'était l'Égypte. Les descendants d'Abraham et de Jacob, ancêtres du peuple juif, étaient des immigrés en Égypte. Et ils étaient traités comme des esclaves. Moïse a pris leur tête pour les en faire sortir et pour faire sortir ce peuple d'immigrés du pays où ils constituaient une main-d'œuvre bon marché. Il a fallu que Moïse entre en confrontation avec le pharaon qui ne voulait pas lâcher ces ouvriers payés trois fois rien. Ces Israélites, il est méprisé, il est craigné, il est détesté, mais il ne voulait pas laisser partir ce ce qui faisait tourner l'économie. Et à ce sujet, la Bible dit tantôt que le Pharaon a endurci son cœur. Tantôt que le cœur de Pharaon s'est endurci, et tantôt que Dieu lui a endurci le cœur. L'apôtre Paul ne retient que cette dernière expression pour dire que derrière les décisions de ce roi apparemment tout-puissant, Dieu était à l'œuvre pour révéler sa justice, sa gloire et sa puissance. Sans l'interaction entre la volonté humaine et la volonté de Dieu, c'est assez mystérieux. Ça, tout le monde le constate. Mais nous le croyons fermement, et vous l'avez chanté au début du culte, Dieu est souverain. Mais il y a même plus. Ce n'est pas seulement le mauvais exemple, le cas de Pharaon. C'est un autre exemple. Il n'insiste pas, Paul, sur le fait que certains ne croient pas, se rebiffent et subissent le jugement de Dieu. Il insiste sur le fait que contre toute attente, Dieu fait grâce à certains et les destine à partager sa gloire. Mais ils n'auraient pas dû. Eux, ils ne le méritaient pas. Mais justement, ils ne le méritaient pas. Ça aussi, c'est mystérieux. Mais nous le croyons et nous l'appelons ça la grâce. Et maintenant, on va aller une étape plus loin encore. La grâce dans l'exode, ok, mais maintenant, il va dire que la grâce de Dieu touche maintenant tous les peuples de la terre. Et je peux vous dire qu'à l'époque où le juif Paul dit cela, c'était révolutionnaire. L'ouverture de la grâce de Dieu envers ces affreux païens que nous sommes la plupart d'entre nous. Étape numéro 4, Dieu veut accorder sa grâce à tous. Verset 24. C'est nous qui sommes les objets de sa grâce, nous qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. C'est ce qu'il dit dans le livre du prophète Osée, celui qui n'était pas mon père. Je l'appellerai mon peuple. Celle qui n'était pas ma bien-aimée, je la nommerai bien-aimée. Au lieu même où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira alors, vous êtes les fils du Dieu vivant. Et pour ce qui concerne Israël, le prophète Esaïe déclare de son côté, même si les descendants d'Israël étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seul un reste serait sauvé. Car pleinement et promptement, le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. Et comme Esaïe avait dit par avance, si le Seigneur des armées célestes ne nous avait pas laissé des descendants, nous ressemblerions à Sodome, nous serions comme Gomorre, des villes détruites. Voilà donc cette quatrième étape. D'une part, seule une partie du peuple d'Israël est entrée vraiment dans le projet de Dieu. Et cela avait été annoncé longtemps à l'avance par les prophètes. D'autre part, les non-juifs ont désormais la possibilité d'être le peuple de Dieu, fils adoptif et bien-aimé de Dieu. Et ils sont devenus justes aux yeux de Dieu, non par leur naissance, non par l'obéissance à une loi quelconque, serait-ce la loi de Moïse. Non, ils sont devenus justes aux yeux de Dieu, par la foi en Christ, qui a pris leur faute sur lui. Voilà donc une très bonne nouvelle pour nous, dans ce chapitre qui passe pour être difficile. La grâce de Dieu sauve à tous. Vous aussi, vous pouvez à Jésus-Christ et le reconnaître comme le Messie et découvrir qu'il consomme vos fautes, vous purifie, paye votre dette, qui vous libère, que la grâce de Dieu vous est accordée aussi. Et c'est ça qu'on va voir dans la dernière étape, les versets 30 à 33. Dieu déclare juste celui qui place sa foi en Jésus-Christ. Que dire maintenant? c'est ce que nous disons. Les païens qui ne cherchaient pas à être déclarés justes par Dieu ont saisi cette justice. Mais il s'agit de la justice qui est reçue par la foi. Les Israélites, eux, qui cherchaient à être déclarés justes en obéissant à une loi, n'y sont pas parvenus. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes, non pas en comptant sur la foi, mais comme si la justice pouvait provenir de la pratique de la loi. Ils ont buté contre la pierre qui fait tomber, celle dont parle l'Écriture, nouvelle citation. Moi, je place en Sion une pierre qui fait tomber, dit Dieu, un rocher qui fait trébucher. Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le désordre. Nous allons donc revenir à notre point de départ. Dieu est-il fidèle? Environ 1800 ans séparent Abraham de la porte. En apparence, le fait que tant d'Israélites aient rejeté le Messie et se trouvant hors du plan de Dieu, ça pose problème. Dieu a-t-il rompu l'alliance qu'il a entamée avec Abraham? Était-il incapable de tenir ses promesses? Non, c'est pas du tout cela. Sur 1800 ans, un tri s'est toujours fait entre ceux qui avaient la foi d'Abraham, qui étaient donc ses descendants spirituels, et ceux qui avaient seulement les gènes d'Abraham, qui étaient ses descendants physiques, sans plus. Dieu n'a pas renié sa parole, ce tri, cette séparation, ces destinées divergentes, il l'avait toujours prévu. De même, et Paul ne cite au chapitre 9 que quelques prophéties qui le disent, Dieu promettait de prix à Abraham que toutes les nations de la terre seraient bénies, que l'alliance faite avec Moïse serait supplantée par une nouvelle, qu'un nouveau peuple se créerait à partir de tous les peuples de la terre. Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, prit une coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'était prévu depuis longtemps, depuis des centaines d'années. Et du coup, cette souveraineté de Dieu qui nous pose problème quand nous nous demandons pourquoi les uns sont sauvés et les autres pas, cette souveraineté de Dieu garantissait que les promesses ancestrales allaient s'accomplir. Cette souveraineté de Dieu garantit qu'à l'avenir, la fidélité de Dieu ne nous fera pas défaut. Ce qu'il a promis là, il l'a réalisé, il le réalisera. Je vais vous donner un autre exemple. Il n'est pas dans Romains, mais croyez-moi, c'est bien dans la Bible. Environ 1000 ans avant Jésus-Christ, Dieu a promis au roi David de lui donner des descendants qui régneraient toujours. Et le trône de David a tenu plus de 400 ans, jusqu'en l'an 586 avant Jésus-Christ, et là, le dernier bastion juif est tombé entre les mains des Babyloniens et le dernier roi a été destitué. Il n'y a plus de roi de la lignée de David sur le trône d'Israël. Et la promesse de Dieu semble avoir failli. Et pourtant, le peuple juif a continué à y croire. À croire qu'il y aurait un jour de nouveau un roi, de la lignée de David qui régnerait sur eux. Et pour cela, il conservait précieusement les généalogies qui légitimeraient ce roi quand il viendrait. Certains savent comment commence l'évangile de Matthieu, par la généalogie de Jésus, fils de David. Noël commence avec la généalogie de Jésus, fils de David. Les mages viennent rendre hommage au roi des Juifs. 30 ans plus tard, la foule acclame Jésus, fils de David. Il a fait mettre en haut de la croix Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il ne croyait pas si bien dit. comme s'il fallait attendre 580 ans, la promesse de Dieu allait s'accomplir. Pas tout à fait comme les gens se l'imaginaient, mais avec encore plus de force. Le règne de Christ n'allait pas s'étendre sur un minuscule territoire du Moyen-Orient, mais sur le monde entier. Pas sur un peuple défini selon des critères physiques, mais sur un peuple issu de tous les peuples, un peuple uni par la foi. Il allait exercer son règne non pas pour tout réglementer dans la vie des gens, par une loi, une police, des cours de justice et des prisons, non, pour inscrire la loi de Dieu dans le cœur de chacun des nouveaux citoyens. La promesse faite à David s'est réalisée autrement, mais plus fortement. Et là, je reviens à la dernière citation que nous avons vue à l'écran. Jésus-Christ est justement la pierre sur laquelle les gens s'achoppent. Hérode, qui veut le tuer quand il est enfant. Les chefs religieux qui s'opposent à lui et organisent son arrestation. Pilate, qui le met à mort. Une partie du peuple qui n'accepte pas que le roi soit venu humblement donner sa vie à la croix. Eux tous, ils ont buté sur Jésus-Christ. Ils sont tombés. Mais en même temps, dit le texte que nous avons lu, Jésus-Christ est le rocher sur lequel tous peuvent prendre appui. Comme moi. C'était prévu de longue date. Dieu est vraiment fidèle. Et si vous en voulez la preuve, regardez à Jésus. Je vous invite à Seigneur, il y a beaucoup de choses dans ma vie que je ne comprends pas. Comment les prières de ma mère se sont exaucées? Comment tu t'es révélé à moi? Comment tu m'as appelé à te servir de telle ou telle manière? Oui, beaucoup de choses que je ne comprends pas. Je reconnais ta souveraineté et je te bénis pour le jour où tu m'as appelé plus fortement, plus précisément, à être ton enfant, à être un disciple de Jésus-Christ. Je te remercie parce que tes promesses envers moi se sont réalisées. Tu as été fidèle tout au long de ma vie. Nous te remercions pour les exemples que nous avons lus, ta fidélité envers des gens si différents sur tant de siècles. Ta fidélité en réalisant la venue du Fils de David, Jésus-Christ, roi des Juifs, roi du monde. Nous te bénissons pour sa venue à Noël, pour sa vie parfaite, pour sa mort, pour sa résurrection, pour son retour que nous attendons aussi, parce que là encore, tu es fidèle. J'aimerais prier, Seigneur,